Et comme ils en tiraient un profit important, et c'était leur source d'activité, ils entretenaient le marais avec leurs bras et avec leurs forces et avec leurs chevaux ou leurs bœufs. Mais là, maintenant, avec les tracteurs qu'ont les agriculteurs, etc., de toute façon, ce sont des engins beaucoup trop importants pour aller dans les marais. Il n'y a plus la population qui correspond à ces activités de pêche et de chasse. Les marais ont été transformés par Pinfaux, par Arzal aussi, qui a beaucoup modifié donc, la végétation sur les marais et l'allure du marais. Part aussi, et c'est quelque chose qui va sans arrêt de plus en plus fort, parce qu'en fait, comme il y a beaucoup plus de végétation, il y a ce qu'on appelle un atterrissement, c'est-à-dire que la végétation, quand elle meurt, elle se dépose au sol et elle fait monter la hauteur du fond des marais. Donc d'une part, on a moins d'eau en hauteur, et en plus, on a un sol qui a tendance à devenir de plus en plus haut, donc on a de moins en moins d'eau. Vous voyez ? Donc, tout a changé, en fait. Et rien ne reviendra dans l'autre sens.
Mais par rapport au marais, c'est une évolution normale.
Voilà.
D'eutrophisation d'une part, et puis de comblement, quoi. Mais ça a été d'autant plus accéléré que il n'y a plus tous les talus qu'il y avait, qui servaient de micro-barrage, en fait, voilà. Et de filtre aussi. Voilà. Donc, un apport d'eau vachement important, mais de terre qui vont couler avec les grandes pluies et tout ça, et puis un apport de tout un tas d'intrants, d'engrais et tout ça,
parce que
toutes ces, et donc qui fait qu'il y a une accélération par ce phénomène-là et par des plantes invasives aussi qui sont arrivées et là qui sont voilà. Toutes contentes parce qu'elles ont quoi pousser et tout ça. Mais en fait, alors, c'est tout le dilemme de savoir, c'est quoi protéger la nature? Est-ce que c'est la laisser faire? Alors, l'instant du marais, c'est un instant vachement important dans le processus écologique, parce que c'est le moment où il y a deux mondes extrêmement différents qui vont se rencontrer, à savoir un milieu aquatique et un milieu terrestre. Quand ces deux milieux-là se rencontrent, ça va générer un milieu particulier qui va être d'une richesse extraordinaire d'adaptation des animaux, des plantes, enfin de tout. D'autant que la hauteur d'eau varie entre l'hiver, le printemps, l'été. Donc ça va générer des systèmes d'étagement de la végétation, des plantes qui vont s'installer, d'autres qui vont partir, d'autres qui vont... Le but du jeu, c'est de coloniser, d'avoir le plus d'espace possible à chaque fois. Et donc ce phénomène-là, il est vachement intéressant, parce qu'on a, plus les mondes qui se rencontrent vont être différents, et plus la richesse va être importante, quoi. Et donc...
Pour les hommes comme pour les plantes, en fait.
C'est pour tout pareil, ouais. Ouais. Et donc, le moment où c'est le marais, c'est le moment le plus riche, en fait, faunistiquement et floristiquement, quoi. Alors, mais bon, le marais, il est amené à se combler tout doucement, quoi. Et on arrive à un milieu, on va dire, un petit peu moins riche, quoi, en biodiversité. Mais alors, protéger la nature, c'est quoi? C'est revenir en arrière pour avoir un marais qui est extrêmement riche. C'est laisser la... Sauf que là les données sont un peu perturbées par le fait de ce que je disais tout à l'heure. Tout cet apport de d'engrais, d'azote, et qui fait que c'est un problème de temps et de vitesse. Quoi. Là, c'est tellement accéléré que ça... ça
ah oui. La nature, il faut l'aider, sinon on se fait vite envahir. Hein. Si vous ne l'aidez pas, la nature, vous êtes envahi vite. Hein.
Bah, si on veut vivre avec, on va s'arranger.
Il faut l'aider.
Il
faut que les deux s'accordent ensemble, quoi, la nature et puis l'homme. Ça, c'est pas évident, parce que différentes idées de l'homme varient aussi.
Ah oui.
Vous en avez qui sont pour la nature, d'autres qui sont contre.
Bah, tout dépend de quelle dose de sauvage on va supporter.
Exactement.
En 1961, voici la carte des marais. En bleu, c'est la partie qui était en eau toute l'année. Le barrage d'Arzal a été construit, donc... en aval de la Vilaine, tout assez près de l'Atlantique, pour réguler le cours de la Vilaine. Il a été construit en 1972-1973. Voilà l'eau qui restait toute l'année. Et depuis, voilà en bleu l'eau 1983-1993. Tout l'espace plat qui est devant vous, ce sont évidemment les marais. Alors d'ici, on voit surtout la Soleil. Quand on sera plus bas, on verra un petit peu plus la Roselière. Et puis, si on regarde, alors il faut vraiment, parce qu'en plus, on n'a pas une très bonne visibilité, mais si vous êtes très attentif, vous allez voir des petits points blancs, vous allez voir une petite vie au-dessus de certains saules. Ce sont justement là que les hérons et les aigrettes sont en train de nicher.
Mais au départ, il n'y avait qu'un nid au niveau des chênes, du chêne central qu'on voit là. Il n'y avait qu'un nichoir des héronnières. Et ça s'est étalé, mais en quelques années. Là,
ouais, voilà. Impressionnant.
Il y en a une, deux, trois.
Regardez quatre, là, comment on les voit là. Ouais. On voit une certaine activité. Je sais pas, c'est...
Il y a un phénomène aussi qui est les oiseaux font des fientes. Voilà. Au bout d'un moment, les feuilles crament. Donc leurs nids sont beaucoup plus visibles. Donc ils vont se déplacer petit à petit.
Voilà, ils vont se déplacer. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, elles vivent en colonie. C'est-à-dire que les hérons, nichent tous côte à côte. D'accord ? Il peut y avoir deux ou trois héronnières. Hein. Ici, il y a plusieurs héronnières. Hein. Mais globalement, ils habitent en colonie. Ils apprécient les HLM, si vous voulez.
Par saule, vous avez une dizaine
de... Autour des hérons, vous avez les aigrettes, souvent, qui nidifient. Donc, tout ça, ça vit au même endroit. Et en effet, à tel point que, en fait, les saules, éventuellement, sont d'ailleurs cramés aussi au bout d'un moment. Et ici, vous avez donc de très grandes héronnières, en fait, de très grandes héronnières au niveau de l'Ille-et-Vilaine. Alors, il y avait beaucoup de chemins comme ça. Hein. Comme vous pouvez remarquer, les chemins, ils avaient quoi comme objectif ? Eh bien, ils avaient comme objectif d'aller au marais, en fait. Et alors là, justement, sur ce thème de la modification du paysage, je vais vous montrer un plan des années 50 comparé avec celui d'aujourd'hui. Donc là, vous avez les années 50 et le parcellaire des années 50.
D'accord. Et ça, c'est celui actuel.
Et ça, c'est le parcellaire actuel.
Et
donc, on voit bien les plein de parcelles. On voit aussi des haies, des chemins.
Des talus, non ?
Des talus, très des probablement, partout. Un petit peu partout, quoi. Et voilà maintenant...
Le désert.
Aussi une des explications de la végétalisation croissante sur les marais. D'ailleurs, les marais sont ici. Donc, on voit qu'ici, il n'y a que peu de saules ici, là. Mm-hmm. Voyez. Et les marais sont ici. Voyez.
Pour planter des haies, quoi.
Bah, ce
en
serait bien.
En 72, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de saules dans le marais.
Ou très peu,
pas.
Sans
que,
doute, là.
Que certaines haies de saules qu'ils faisaient au niveau des cours d'eau, enfin, ou des ruisseaux, où ils pêchaient l'anguille. Là, ils avaient des saules pour protéger, mais, et qui taillaient, qu'ils entretenaient. Puis à partir du moment que les agriculteurs ont laissé les terres, parce qu'ils ont été arrivés en traite, le département les a achetés. Ben, leur but de département, c'était de faire ça.
Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. C'était pas forcément le but. Il y a tout ce dont on a parlé qui en est l'origine. Et ça aussi, ça en est l'origine. Je veux dire, à partir du moment où il y a un lessivage des terres qui est supérieur à ce qui existait auparavant, il y a forcément des dépôts d'azote et tout ça davantage dans les marais et de terre, ce qui fait que de toute façon, ça se transforme. Et puis par ailleurs, il y a aussi un entretien qui se faisait par les locaux qui ne se fait plus et qui ne se ferait plus d'ailleurs, hein, parce que, comme je disais, les matériels n'est pas capable d'entrer dedans de toute façon. Et à cette période-là, on voit à quel point les chemins, on les distinguait. Maintenant, ils sont obligés de les tracer en blanc, sinon on ne les voit plus en fait.
Et à partir du remembrement qu'ils ont abattu les talus, le village de Gendel a été inondé trois fois.